Mathieu, tu sais que le talent que Dieu t'a donné, puis le fait que tu sois en train de jouer en avant, c'est une réponse à mes prières. Depuis des années, je prie à Dieu, puis je dis, Seigneur, il faut que tu nous donnes des guitaristes. Et puis Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un don, puis c'est une joie de t'entendre jouer parce que tu joues bien. Parce que tu joues bien. Mais au-delà de ça, parce que tu le fais avec une attitude de serviteur. Et déjà, l'équipe qui travaille avec toi peut voir en toi une attitude de serviteur et c'est vraiment une bénédiction, une grâce de ta voix. Amen. J'aimerais ça inviter Jacques à venir me rejoindre à l'avant. Je vais descendre ici, puis on va juste prendre un instant pour prier pour toi, puisque tu quittes pour le Nicaragua. D'accord? Jacques me partageait comment Dieu l'avait protégé, lui et sa famille, au moment du tremblement de terre. Dieu a permis qu'un des pasteurs qui était dans la région ait comme un sens, qu'il y a quelque chose qui s'en venait, un pressentiment de Dieu. Et puis c'était vraiment touchant de voir combien Dieu avait sa main sur lui, puis il me partageait. Je ne sais pas exactement c'est quoi l'appel de Dieu sur sa vie, mais il voit que Dieu a sa main sur sa vie. Est-ce que j'ai bien représenté? Ouais. Alors, on va juste prier pour que Dieu dirige ton voyage, tout ça. Éternel notre Dieu, nous sommes, Seigneur, des pèlerins sur la terre et certains d'entre nous le vivent de manière beaucoup plus aiguë, de manière beaucoup plus réelle dans leur vie. Et Seigneur, mon frère Jacques est un pèlerin sur la terre littéralement. Littéralement sans terre et domicile fixe pour l'instant, Seigneur. Parce que tu as bouleversé son pays à travers ce tremblement de terre, tu as bouleversé sa vie. Mais Seigneur, j'aimais à entendre sa foi. J'aimais à entendre, Seigneur, ses yeux qui sont fixés sur toi. Le fait qu'il reconnaît dans sa vie ta souveraineté. Le fait qu'il reconnaît dans sa vie ta protection et ta grâce, Seigneur. Et je veux te demander maintenant d'accompagner son voyage, d'accompagner les prochains mois d'adaptation alors qu'il va être seul là-bas au Nicaragua, sa famille, ici, Seigneur, cette séparation pour quelque temps probablement. On te demande ta grâce sur lui, ta protection et ta bénédiction, que tu puisses le conduire rapidement vers des frères et sœurs là-bas qui vont l'aider à continuer à grandir dans sa connaissance de toi, dans sa foi, Seigneur. On te demande, Père, ta grâce et ta bénédiction sur sa famille ici. Viens protéger, viens bénir, Seigneur. Et Père, je te prie, au cours des prochains mois, des prochaines années, de l'aider à voir quel est l'appel que tu as placé sur sa vie à travers tous ces bouleversements. Merci Seigneur de garder notre foi à travers les épreuves. Viens bénir mon frère Jacques. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Seigneur te garde, frère. Bon voyage. Libéré sur parole. Lorsqu'on libère un prisonnier sur la base de sa parole, tout repose sur sa crédibilité. Vous connaissez l'expression « être libéré sur parole ». Tout dépend de la crédibilité de cette personne-là, de son comportement. Est-ce qu'il mérite cette libération sur parole? Est-ce que sa parole est fiable? On va évaluer la valeur de cette personne-là, ses agissements. Est-ce que c'est quelqu'un qui est digne de confiance? Est-ce que s'il nous dit que son comportement va être adéquat en sortant, peut-être avant le temps, bien, est-ce qu'on peut s'y fier? Est-ce qu'on peut avoir confiance en sa parole? Et on remet cette personne en liberté sur la base de la confiance qu'elle mérite. Et je trouvais que c'était une belle image. Je trouvais que c'était une belle image pour parler de deux choses. Premièrement, de cette liberté que nous désirons tous. Il y a quelque chose de commun à tous les hommes sur terre. Chacun d'entre nous, au fond de notre cœur, nous aspirons à être libérés de toutes sortes de choses, puis en même temps d'une seule chose qui se passe en nous. Mais nous aspirons tous à être libérés, soit de certaines dépendances, de certains vices, de certaines choses qui nous ramènent toujours à notre bêtise. D'autres aspirent à être libérés de certains agissements dans leurs relations qui brisent toujours, qui font que ça se termine toujours mal, que ça n'aboutit pas. Ils veulent être libérés de ce comportement égoïste. On veut être libérés de nos bêtises et de leurs conséquences. On veut être libérés de nous-mêmes. de certains désirs en nous qui nous mettent dans le trouble, qui nous font dépenser, qui nous amènent à se mettre les pieds dans les plats. Nous voulons être libérés de notre incapacité à aimer, notre incapacité à aimer vraiment, notre incapacité peut-être à faire confiance ou à être vraiment généreux dans nos relations, dans nos amitiés, en amour. On veut être libéré du découragement, de nos dépressions. On veut être libéré de nos rancunes ou du désespoir, de ne pas savoir où s'en va notre vie. Il y a cette aspiration, ce désir de liberté en nous. Et généralement, ces choses-là, la Bible les appelle péchés, plusieurs d'entre elles. Et on veut être libéré, en fin de compte, de cette espèce de démon, si je peux dire, intérieur, qui brise tellement de choses autour de nous. Dans le fond, nous aspirons à être libérés du péché et de ses conséquences dans notre vie. Et ça, c'est dans tous les cœurs. Tous les êtres humains vivent ça. C'est pour ça qu'il y a des programmes de développement personnel pour l'estime de soi, puis il y a toutes sortes d'approches, toutes sortes de philosophies, mais cette aspiration-là est universelle. Chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées, matérialistes, tout ce que vous voudrez, tout le monde, chacun sa religion, veut être libéré de ça. Toute la gang, on aspire à une liberté intérieure et que cette liberté-là se traduise dans notre vie, de manière concrète, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport aux gens, dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport à la vie. La semaine dernière, on a entendu deux témoignages, ceux qui étaient ici lorsqu'on a eu les baptêmes, et ces deux jeunes gens-là nous parlaient de libération, libérés d'eux-mêmes, libérés du péché, libérés d'une vie qui s'en va comme nulle part. La question, c'est de savoir sur qui ou sur quoi est-ce que je vais m'appuyer pour trouver cette liberté. Parce qu'on aspire tous à ça. Sur qui ou sur quoi est-ce que je vais m'appuyer pour trouver cette liberté? Est-ce que je vais m'appuyer sur moi-même pour trouver cette liberté? Je vais aller puiser en moi-même, dans mon fort intérieur, et je vais trouver les ressources en moi-même pour être libre enfin. Beaucoup essaient cette voie-là. Est-ce que je vais m'appuyer sur une philosophie d'homme pour trouver la liberté? Est-ce que je vais m'appuyer sur moi, c'est-à-dire m'appuyer sur ma propre parole? Et là, j'imaginais cette semaine, je m'imaginais des fois des moments difficiles où tu décides que tu veux t'en sortir, puis tu te regardes dans le miroir. Et plusieurs d'entre nous, on l'a fait, si on veut être honnête. Tu te regardes dans le miroir, que ce soit un miroir physique ou tu te parles à toi-même, puis tu te regardes dans les yeux, puis là, tu te dis, là, on va s'en sortir. Je te le dis, c'est fini, je ne retombe plus là. Je te le dis, je ne me ferai plus prendre à ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On est en train d'essayer du plus fort qu'on peut à se dire, regarde, mon Yannick, t'as manqué ton coup tout le reste du temps, mais cette fois-ci, fais-moi confiance, ta parole est digne. Ta parole vaut quelque chose. On essaie de se motiver, puis je ne suis pas en train de dire que c'est inutile. C'est toujours bon de se motiver. C'est quand même bon de savoir ce que je vaux. Mais est-ce que vraiment, je vais m'appuyer uniquement sur moi-même pour me sortir de toutes ces luttes, de tous ces combats intérieurs qui affecte toutes nos vies, chacun d'entre nous. Ce matin, je vais vous amener voir et écouter un vieux bonhomme qui a vécu là super longtemps et qui avait décidé de fonder sa liberté non pas sur lui-même, mais sur la parole de quelqu'un d'autre. Cet homme-là était sage. C'était quelqu'un qui connaissait le cœur humain. Il connaissait son propre cœur et les dynamiques de son cœur. Et il a écrit une prière. Il a écrit une prière absolument fantastique, un psaume. Et il a écrit une longue prière qui est tellement lucide. C'est une prière qui est, le mot qui me venait, qui est « grounded » dans la réalité. parce qu'il connaissait son cœur, parce qu'il connaissait l'être humain, parce qu'il connaissait les dynamiques de la vie. Et c'est le psalmiste qui a écrit le psaume 119. N'ayez pas peur, on ne va pas lire tout le psaume 119 ce matin. Vous pouvez tourner avec moi dans le psaume 119. Maintenant, je vais lire ce matin la traduction dite du semeur, d'accord? Qui est assez différente dans ses tournures de phrases. Alors, on va l'afficher ici en avant, et peut-être que vous allez préférer lire ce qui est affiché en avant si vous n'avez pas la semeur entre les mains, ou vous pouvez tout simplement fermer les yeux et laisser la parole de Dieu faire son chemin dans votre esprit, et puis on va regarder ce passage-là ensemble, d'accord? Mais avant de lire le passage, j'aimerais simplement dire un mot de prière. Père éternel, dans ta grâce, tu m'as parlé un jour et tu m'as convaincu de ne pas m'appuyer sur ma propre parole pour être libéré. Et Seigneur, depuis ce jour, comme le psalmiste, je lis et sonde tes Écritures, aidé par ton esprit, pour entrer chaque jour de plus en plus dans cette liberté que tu m'as offerte. Cette liberté que j'ai reçue en Jésus-Christ et qui de plus en plus se traduit en action, en sentiment, en état d'âme, en style de vie tous les jours. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Et comme ce psalmiste, j'ai fait le choix d'être libéré, non sur la base de ma parole et de ce que je vaux, mais sur la base de ta parole. Je te prie, Père, ce matin, de nous convaincre par ton esprit. Parce que tous les arguments du monde et toute la beauté de tes Écritures ne feront pas la différence si ton esprit ne nous convainc pas. Viens faire une œuvre, Seigneur, ce matin. Viens changer nos attitudes et nos comportements à l'égard de ta parole, afin que nous puissions, comme le psalmiste, aller puiser chaque jour dans ta parole, afin d'être libérés de plus en plus, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Psaume 119, verset 41. Dans la traduction dite du semeur. 41 à 48. Que ton amour, ô Éternel, s'étende jusqu'à moi, et ton salut selon ce que tu as promis, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes édits devant les rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements, car je les aime. Je tends les mains vers tes commandements, car je les aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Ce matin, je vais vous parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu est digne de confiance parce qu'elle nous vient de Dieu. Tout le psaume 119 est un hymne à la beauté de la parole de Dieu, à sa vérité, à sa grandeur, à sa splendeur. Cet homme sage avait pris une décision lucide et très intelligente. Non pas de s'appuyer uniquement sur lui-même et ce qu'il pouvait trouver en lui, ou sur ses propres raisonnements, ou sur une philosophie d'homme, mais il avait décidé de s'appuyer sur la parole de Dieu. Le psalmiste avait une entière confiance dans la parole de Dieu. Et la raison pour ça, c'est qu'elle venait de Dieu. Alex nous a mis sur la piste tout à l'heure déjà. Voyez-vous, la parole de Dieu pour cet homme-là avait une grande valeur parce que ce n'était pas une parole qui avait été donnée à la légère. C'est une parole qui avait été donnée par Dieu. Quand un homme vient et qu'il vous donne sa parole, lorsqu'il s'engage, lorsqu'il vous fait une promesse, mais cette promesse vaut la personne qui est devant vous, non? Si tu sais que c'est un menteur, c'est un fourbe qui t'a trompé, il a beau jurer, il a beau faire n'importe quoi, sa parole ne vaut rien à tes yeux. C'est un menteur. Je le jure. Yeah, sure. Non, je te le dis, je vais le faire. Bla, 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 bla. Ça vaut rien. On n'entend plus. Mais voyez-vous, lorsqu'un homme vous donne sa parole, dans le meilleur des cas, ça vaut la parole d'un pécheur corrompu. Dans le meilleur des cas. Parce qu'on est tous, infectés, affectés par ce mal qu'est le péché. Si vous voulez que je le dise en d'autres mots pour que ça passe plus facilement, on est tous imparfaits. OK, correct. Mais c'est la même chose que je viens de dire. Et donc, dans le meilleur des cas, quelle que soit la parole qu'un homme va vous donner et la vôtre, vaut la parole d'un pécheur, sans plus. Mais lorsque Dieu te donne sa parole, tu sais, quand Dieu le fait, puis te donne sa parole, fait pas exactement comme ça, mais quand Dieu te donne sa parole, non, mais c'est Dieu. Pensez-y, si ça ne se tient pas, il n'est plus Dieu. S'il manque à sa parole, excusez, il n'est plus Dieu. C'est Dieu qui me donne sa parole. Ça vaut quelque chose. C'est du solide. C'est en béton. Dans le psaume, dans le verset 41, il dit que ton amour, ô Éternel, s'étende jusqu'à moi et ton salut, ce que tu as promis. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis confiance en ta parole. Le mot parole qui est là ne parle pas du texte écrit immédiatement. Ça parle de ce que Dieu a dit. Le psalmiste lit les Écritures et lorsqu'il les lit, il entend la voix de Dieu. Et chaque fois qu'il lit quelque chose dans les Écritures, pour lui, c'est Dieu qui lui parle. De la même manière que si je rencontrais quelqu'un qui me disait « Je te donne ma parole que je vais être là », j'arrive à l'heure, la personne ne se pointe pas, je sais qu'elle est digne de confiance, je me rappelle ce qu'elle a dit, je l'entends, je me souviens. J'ai confiance dans ce qu'il m'a dit. C'est exactement ça qu'il est en train de dire ici. Il dit « J'ai confiance dans tout ce qui sort de ta bouche, Dieu. Tout ce qui sort de ta bouche comme promesse, comme parole, c'est du béton pour moi. C'est digne de confiance. » Alors, voyez-vous, la parole de Dieu est fiable parce que ce n'est pas une parole d'homme. C'est une parole qui a été inspirée par Dieu à travers des hommes. Mais c'est la parole de Dieu. Et c'est le nom de Dieu qui est derrière cette parole-là. Alors, le psalmiste avait confiance de fonder, d'appuyer sa vie sur cette parole parce que c'est la parole de Dieu. Le psalmiste se tourne vers la parole pour quatre raisons. Et mon objectif ce matin, c'est juste de vous aider à voir combien cette parole est précieuse à tous les jours dans notre vie. Première raison, parce qu'à travers sa parole, Dieu nous a promis le salut. Deuxième raison, par sa parole, il nous donne la vraie liberté. Troisième raison, sa parole remplit notre bouche de paroles de vérité. Cette parole vient transformer ce que nous sommes comme personne dans ce que nous pouvons apporter aux autres. Elle remplit notre bouche de paroles de vérité. Et sa parole nous donne de l'assurance pour conduire d'autres personnes vers la liberté, vers la vraie liberté. Elle vient nous transformer pour nous donner de l'assurance pour en conduire d'autres vers la liberté. Alors, tu peux continuer d'avancer dans la vie en t'appuyant sur toi-même. En te regardant dans le miroir le matin en disant, « Ce matin, mon Yannick, on est capable. Toi puis moi, we'll take it, man. On va faire cette journée-là ensemble puis on est capable. » Tu sais, hier, on a fait des niaiseries, on n'en fera pas aujourd'hui, je te le dis. Et vous appuyez sur vous-même ou vous tournez humblement vers la parole de Dieu tous les jours. Puis dire, « Seigneur, ce ne sera pas mes raisonnements, ce ne sera pas mes pensées, ce ne sera pas mes idées, ce ne sera pas ma parole qui va tenir aujourd'hui, c'est la tienne. Et je vais être libéré sur ta parole, Seigneur. Pas parce que je me regarde dans le miroir en disant, on est capable, on est capable. » Le psalmiste se tourne vers la parole de Dieu parce que Dieu nous a promis le salut Et Dieu accomplit ses promesses. Verset 41-42. Que ton amour, ô Éternel, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Dieu a promis de sauver tous ceux qui se confient en lui. C'est constant à travers les Écritures. C'est constant du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Dieu a promis de sauver tous ceux qui se confient en lui, et Dieu tient ses promesses. Le psalmiste est en train de vivre une situation particulière. Il y a des gens qui l'attaquent, il y a des attaques personnelles. Est-ce que ça va jusqu'à des menaces physiques? Possiblement. Mais il y a des gens qui le méprisent à cause de sa foi, entre autres. Et donc, il subit des outrages et il aspire à une délivrance. Il dit, Dieu, viens me sauver. Viens me sauver, viens. Viens me sauver. Et là, je pourrais encore plus leur dire, regarde, mon Dieu est vivant. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il a confiance que Dieu va venir le sauver? Parce que Dieu a promis de sauver, de délivrer tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui se confient en lui. Et Dieu a toujours agi ainsi. Dieu a toujours été fidèle. Le psalmiste, celui qui a écrit cette prière, connaissait l'histoire d'Israël. Il savait que Dieu est le Dieu qui promet de sauver ceux qui se confient en lui. Il connaissait l'histoire d'Israël. Il savait que Dieu avait promis à un peuple petit, tout petit, de les délivrer d'un esclavage, de les conduire vers une terre d'abondance. Il connaissait cette histoire et il savait que Dieu accomplit ses promesses. Dieu tient ses promesses. Et donc, le psalmiste lisait les Écritures en allant vers ce Dieu qui sauve ceux qui se confient en lui, en allant vers le Dieu qui accomplit ses promesses. Et c'est comme ça qu'il lisait la Bible. Cherchant toujours les promesses de délivrance de Dieu pour ceux qui se confient en lui. Et il les rappelle à Dieu. Seigneur, tu es celui qui promet, tu es digne. Je me tourne vers toi, j'attends de toi la délivrance. Je ne l'attends pas de Yannick en me regardant dans le miroir. J'attends de toi parce que toi, tu es digne de promesses. Yannick, je l'ai déjà essayé. Et voyez-vous, le psalmiste, lorsqu'il a écrit ça, écoutez, on est quand même quelques siècles avant la venue de Jésus. Cet homme-là, sans vouloir lui manquer de respect, ne connaissait rien de Dieu, comparativement à ce que nous connaissons. Cet homme-là ne connaissait rien de Dieu, comparativement à ce que nous connaissons, parce que Jésus n'était pas encore venu. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Lui, il savait que Dieu est celui qui délivre ceux qui se confient en lui, et il le savait sur la base de la fidélité de Dieu, parce que Dieu l'avait promis et il l'avait vu s'accomplir à travers l'histoire d'Israël. Mais qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour nous qui avons vu, nous lisons à travers tout l'Ancien Testament, des promesses de libération beaucoup plus grandes que l'esclavage d'Israël? La vraie libération du cœur, la vraie réconciliation avec Dieu. Et on lit ses promesses et ça s'étend sur des siècles, puis les gens les narguaient, puis ils leur disaient, Israël, petit peuple, où est-ce qu'est ton Dieu? Celui qui fait des grandes promesses, qui ne les accomplit pas, où est-ce qu'est ton Dieu? Et on lit cette histoire et Dieu a fait des promesses. Et on arrive beaucoup plus tard dans l'histoire, boum, Jésus arrive. Tournez avec moi dans Luc 2, s'il vous plaît. Luc 2. Pardon. Luc 2, verset 25. Merci. Dans Luc 2, on trouve une autre personne qui est comme le psalmiste, un homme sage et humble qui a appris à lire les Écritures comme on doit les lire. Luc 2, verset 25. Et je vais vous lire jusqu'au verset 33, d'accord? Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait que les promesses faites depuis des siècles s'accomplissent. C'est ça la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ça devait être vraiment trippant. Oh, j'aurais aimé ça. Tu sais, le Saint-Esprit vient de dire, ça se passe dans ta génération, mon ami. Toi, tu vas le voir avant de mourir. Oh! Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon était un homme qui lisait les Écritures comme le psalmiste du psaume 119. Il lisait les Écritures pour voir ce que Dieu promet, pour voir la délivrance que Dieu annonce. Il les lisait pour voir les promesses de Dieu, sachant que ce que Dieu promet là, c'est pas une vieille patente qui est écrite par une gang de vieux séniles qu'il faut laisser sur une tablette pour aller chercher quelques bonnes idées pour me sortir du pétrin quand ça va mal. Non, c'est la parole de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu. Et donc, il attendait activement dans son cœur de voir Dieu accomplir ses promesses. Et il a vu de ses yeux, il a pris dans ses bras Jésus. C'est comme ça qu'on doit lire les Écritures. Nous devons lire les Écritures en cherchant les promesses de Dieu. On doit lire les Écritures en cherchant ce que Dieu nous promet à nous maintenant aussi. Dieu nous a promis dans sa parole de pourvoir à nos besoins. Il nous a promis dans sa parole de ne pas nous abandonner. Il nous a promis dans sa parole que son esprit demeurait éternellement avec nous si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Il nous a promis qu'à travers les épreuves de la vie, nous ne serions pas seuls. Il nous a promis qu'aucune épreuve ne surviendrait dans notre vie qui soit au-delà de nos forces, mais qu'au contraire, toutes celles qui surviennent dans nos vies sont là pour notre bien, pour notre transformation. Ce sont toutes des promesses. Et nous savons qu'elles sont vraies parce que c'est Dieu qui les a données et parce que nous avons vu à travers l'histoire de l'humanité que Dieu accomplit ses promesses. Dieu promet de délivrer tous ceux qui se confient en lui. Il l'a fait avec Israël. Et puis il a envoyé Jésus-Christ. Alors moi je sais, parce que je suis chrétien, moi je sais que Dieu a promis de délivrer tous ceux qui se confient en lui et qu'il le fait. Je le sais par expérience, parce que j'ai expérimenté la grâce du salut en Jésus-Christ. Je suis passé de la mort à la vie et j'ai vu dans mon cœur cette libération s'opérer, cette délivrance s'opérer. Je sais que Jésus-Christ sauve. Aujourd'hui, lorsque je lis la Bible parce que Dieu dans sa parole promet de délivrer, de sauver. Et je cherche ses promesses, activement cherchant à entendre sa voix pour ma vie tous les jours. Je lis la parole parce qu'il a promis dans sa parole qu'il reviendrait me chercher. Et je lis les Écritures dans cette attente, comme Siméon qui attend cette délivrance constamment, qui veut voir le jour où Jésus va venir. Moi, je veux voir le jour où Jésus va revenir. Voyez-vous, je plonge les regards dans la parole parce que j'y trouve des promesses de salut. Des promesses de salut pour l'éternité en Jésus-Christ, des promesses de salut et de délivrance dans mon quotidien aussi. Et c'est comme ça que le psalmiste lisait les Écritures. C'est pour ça qu'il fondait sa vie sur la parole de Dieu. Deuxièmement, le psalmiste se tournait vers la parole parce que sa parole nous donne la vraie liberté. Versets 44-45. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Cet homme a expérimenté ce que des millions de chrétiens, de croyants, ont expérimenté à travers les siècles. Et pour plusieurs d'entre vous, ce que je vais dire là, ça va apparaître comme un paradoxe, d'accord? Une contradiction. Des millions de personnes ont expérimenté à travers les siècles la réalité que lorsque tu vas te placer sous la loi de Dieu, tu deviens plus libre. lorsque tu vas te placer sous la loi de Dieu et que tu cherches à observer, la loi, c'est la parole, les promesses, les préceptes, les commandements, ce sont tous des synonymes. Lorsque tu vas placer ta vie sous la loi de Dieu, que tu médites les Écritures quotidiennement, tu t'appropries ses préceptes, tu contemples leur beauté, tu cherches à les appliquer dans tes relations avec tes amis, dans tes relations avec l'amour de ta vie, dans ton rapport à l'argent, dans ta manière de te voir toi-même, dans la culpabilité que tu peux vivre, avec ce que tu fais avec ta langue. Quand tu décides de dire la loi de Dieu, ça c'est mon guide, tu entres dans la liberté. Et pour plusieurs d'entre vous, c'est un paradoxe. Parce que vous concevez la loi de Dieu, la parole de Dieu, comme un carcan. Ce sont des chaînes. Pour vous, la parole de Dieu, les lois de Dieu, ce sont des chaînes que les chrétiens se mettent après les chevilles pour arrêter de jouir de la vie, pour arrêter de jouir des bonnes choses de la vie. Et c'est comme ça que vous voyez la loi de Dieu. Certains d'entre vous, c'est comme ça que vous pensez. Certains d'entre vous, vous vous dites même, je voudrais pas porter ces chaînes-là, mais Jésus, porte d'entrée pour l'éternité, ouais, bon deal, ça je le prends. Je vais signer juste cette partie-là, Seigneur, on coupe le contrat en deux, juste ça, parce que le reste, c'est lourd, puis je vois les chrétiens, non, ça m'intéresse pas. Fait que vous dites, juste la moitié du contrat, on peut-tu comme y aller juste pour la moitié? Mais ce que vous ne saisissez pas, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il entre dans ta vie, il libère ton cœur de l'emprise du péché, il te donne son esprit pour que tu médites sa parole et que tu commences à vivre dans la liberté. Alors, il te libère réellement pour que tu apprennes à marcher dans cette liberté-là de plus en plus. C'est un package, cette patente-là, là. C'est un combo que tu ne peux pas séparer. Ça vient ensemble ou ça ne vient pas du tout? Maintenant, probablement que si vous ne voyez dans la Bible que des commandements, que des lois, qu'un carcan, c'est tout, probablement, et je ne dis pas ça pour vous offenser, probablement que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. D'accord? Si pour vous la Bible, c'est juste des lois, probablement que vous êtes, et je ne dis pas ça pour vous offenser, mort spirituellement. L'Esprit de Dieu ne vous habite pas. Voyez-vous, la loi de Dieu, la Bible, nous enseigne à aimer. Elle nous enseigne à apprécier tout ce que Dieu a créé, la bouffe, le bon vin, sans jamais en devenir esclave. La loi de Dieu nous enseigne à avoir des relations où on ne garde pas rancune, mais on pardonne. La loi de Dieu nous enseigne à être humbles dans nos rapports les uns avec les autres, à pas se prendre trop au sérieux. Et j'espère que vous voyez ça dans ma vie. Je me prends pas trop au sérieux. Parce que je sais que je suis pécheur. La loi de Dieu m'enseigne à regarder tous les hommes, non pas de haut, mais avec beaucoup de compassion parce qu'ils sont tous comme moi, pécheurs. La loi de Dieu m'enseigne à marcher dans l'amour et dans la vérité. La loi de Dieu m'enseigne à m'éloigner de la colère pour aller vers la douceur. Mais qui me dira que toutes ces choses sont mauvaises? Lequel d'entre vous me démontrera que ces choses-là, c'est des carcans? Et qu'au contraire, la débauche, l'ivrognerie dépendent de ton injection, dépendent de ton appétit pour dépenser, pas être capable d'avoir des relations vraies, vivre un amour unique pour la vie vraie, pas être capable de t'humilier, de demander pardon quand tu fais une connerie. Ah, ça, c'est la liberté, ça. Non, je suis désolé. Ça, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage du péché. C'est l'esclavage du péché. Ça peut être agréable pour un temps. Hein? Ça peut être plaisant. Hein? Mais plus j'avance dans la vie, plus j'apprends à connaître ceux autour de moi qui ne décident pas de marcher selon la loi de Dieu, plus j'apprends à connaître leurs esclavages. Par la grâce de Dieu, on a des belles relations, puis de temps en temps, ils viennent me parler, « Ah, Jésus, c'est too much pour eux, puis la loi de Dieu, c'est too much pour eux. » Mais à travers la conversation, timidement, ils glissent leurs esclavages, ils parlent de ces choses-là. Et combien aimeraient que ça change dans leur vie. Le psalmiste avait compris que la loi de Dieu nous montre la voie de la vraie liberté. Et donc, il allait quotidiennement plonger les regards dans sa parole, afin que sa pensée, sa vision du monde, son cœur soient constamment confrontés, corrigés, ajustés. Sur la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit plonger les regards dans la parole tous les jours. Qu'on doit la lire, qu'on doit la méditer. Afin de marcher dans la vraie liberté. Jésus dit dans Jean 8, 31-32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette règle-là n'était pas bonne seulement que pour le psalmiste qui est dans l'Ancien Testament, puis nous on est dans le Nouveau Testament, fait que nous on a l'Esprit en nous, puis on a la loi de Dieu gravée dans notre cœur. Non, 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 non. Jésus dit, si vous gardez ma parole, si vous la gardez, comment est-ce que je vais observer la parole de Dieu? La parole de Christ, si je n'ai pas constamment les regards plongés dedans, si je ne l'apprends pas pour la voir sur le bout des lèvres à tout moment, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On commence par le salut en Jésus-Christ. On réalise que Jésus-Christ est lui-même la parole de Dieu. Je sais là que je suis dans la théologie, il y en a qui ne me suivent pas. Puis une fois qu'on a saisi ça, on replonge dans les Écritures, rempli de l'Esprit, puis on dit, « OK, Jésus, parle-moi maintenant. » Parce que je veux que la vérité m'affranchisse entièrement. Et là, la parole commence à faire son œuvre dans mon cœur, commence à montrer des motifs doubles, des attitudes, des comportements, des convoitises. C'est vrai, c'est du travail. Mes chaînes tombent, ça fait mal. C'est vrai. Mais j'entre dans cette liberté-là de plus en plus. Le psalmiste se tournait vers la parole pour vivre une vie véritablement libre. Le psalmiste se tournait vers la parole parce que la parole remplit notre bouche de paroles de vérité. Regardez le verset 43. « Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. » Il avait constamment les regards dans la parole de Dieu afin que ce qui sort de sa bouche soit vrai. Il n'avait pas cette confiance en lui-même au point de dire, si ça vient de mon fond intérieur, c'est vrai. Ah non, pas nécessairement ton fond, des fois il est sale, puis ce qui sort, c'est sale. Ah, c'est peut-être vrai, t'es vraiment sale. Mais au contraire, non, lui ce qu'il disait, c'est, je veux garder les yeux sur ta parole pour que tu remplisses ma bouche de paroles de vérité. Je veux apporter la vérité. La vérité, c'est pas juste de dire à quelqu'un, « Hey, sais-tu, tu fais dur aujourd'hui? » Non, la vérité, c'est de dire, « Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es une créature de Dieu. » Puis tous les préjugés que j'ai envers toi, là, j'ai besoin de la parole de Dieu pour qu'ils tombent, pour que je vienne avec vérité. La vérité, c'est que Dieu t'aime et il veut que je t'aime et il veut que j'aie de la compassion pour toi. La vérité, c'est que Dieu veut que je m'humilie. Si je vais pas vers la parole, je vais rester campé dans mon orgueil. On va avoir des conflits ensemble, je ne m'humilierai pas. Si je m'en vais dans la parole, ma bouche va dire la vérité. La vérité, c'est que toi et moi, on est des pécheurs. Je vais te demander pardon, mon frère. Je te demande pardon. Parce que j'ai manifesté de l'orgueil. Oh, des paroles de vérité qui sortent de ma bouche. La vérité, c'est que Dieu n'est pas découragé dans ce que tu es en train de vivre. Avec mes yeux, si j'écoutais juste ce que j'ai dans mon cœur, hey, moi aussi, je serais découragé à ta place. Je sais pas si je voudrais faire une autre journée si j'étais dans ta position. Oh, mais la vérité, c'est que Dieu est Dieu. Dieu règne. Dieu règne, il y a de l'espoir. Dieu est là, Dieu veut prendre soin de toi. Puis moi, je vais être là. Ça, c'est des paroles de vérité qui sortent de ma bouche. Le mensonge, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Dieu n'est pas là, puis il t'a abandonné. Ça, c'est le mensonge. J'ai besoin d'aller constamment vers la parole pour que ma bouche soit remplie de paroles de vérité. Parce que ma nature pécheresse m'amène à dire toutes sortes de choses fausses aux gens autour de moi. Comme je suis meilleur que toi, comme t'es pas correct, comme non, il n'y a rien à faire. Hey, c'est décourageant ta situation. Moi, là, je suis pas vraiment à l'aise avec du monde comme toi. Ah, t'es vrai. Comme j'ai dit, ça vient d'un fond sale. T'es vraiment sale. T'es vraiment sale. C'est pas des paroles de vérité, ça. C'est des paroles qui viennent d'un cœur tordu, qui est là pour être égoïste puis faire du mal. Mais le psalmiste allait constamment vers la parole pour que sa bouche soit remplie de paroles de vérité. Des paroles de grâce, de bénédiction. Des paroles humbles, des paroles fortes. Pour bénir, pour relever. Je veux constamment plonger les regards dans la parole de Dieu, afin que ma bouche soit là pour faire du bien aux autres, pour les bénir, pour les élever, pour les édifier, pour les conduire à Christ. Sa parole, quatrièmement, nous donne de l'assurance pour conduire d'autres personnes vers la liberté. On le voit à deux moments dans ces quelques versets. Au tout début, évidemment, les versets 41-42, « Que ton amour, ô Éternel, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. » Alors, il plonge ses regards dans la parole, attendant de Dieu la délivrance, et il va prendre de l'assurance devant les moqueurs. Il plonge les regards pour voir, espérer, attendre de Dieu la délivrance, et prendre de l'assurance pour répondre aux moqueurs. Mais non seulement eux, un peu plus loin, il dit au verset 46, « Je parlerai de tes édits devant des rois sans éprouver de honte, devant les grands de la terre aussi. » Et pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Pourquoi est-ce qu'il veut aller devant les rois et proclamer la loi de Dieu, la parole de Dieu pour aller péter de la broue? Pour aller dire « Moi, je suis un homme pieux! » Non, ça c'est une parole de mensonge. « Moi, je suis un pécheur. Toi, tu es un pécheur. Tu as besoin de Jésus-Christ. » Amen! Ça, c'est une parole de vérité. Mais où est-ce que je vais trouver l'assurance? Je sais que vous ne me croirez pas si je vous dis que je suis un gars timide, parce que vous me voyez en avant. Mais ceux qui me connaissent vraiment ici dans la salle, vous savez que je suis un gars timide. Je suis un gars baveux, je suis un gars fendant, c'est vrai, tout à fait vrai. Dieu a encore beaucoup de travail à faire. Mais je suis un homme timide. J'ai eu le privilège, il y a une couple d'années, d'aller manger avec John Piper. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Un petit monsieur. Peut-être finalement pas plus grand que moi, fait que je suis peut-être pas si grand que ça. Mais un petit monsieur. Extrêmement timide. Je suis allé manger avec lui et cet homme-là n'avait rien à dire. Je m'en vais manger avec John Piper. Oh, je voulais juste comme prendre un fil avec deux ports USB puis. Il mangeait son steak, ses patates, la tête comme ça. Je vous le dis, est-ce qu'on avait des gars du Conseil Michel qui étaient là? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, là. Je vous le dis. Et John Piper dit lui-même qu'il trouve de l'assurance pour ouvrir la bouche lorsqu'il parle de Dieu. C'est une autre personne. Et pendant le repas, on l'a vu, il s'agissait de poser les bonnes questions pour qu'il lâche son steak. Pas des questions sur John Piper. Pas des questions sur lui. Wow, c'est super votre ministère. 7-8 000 personnes tous les dimanches, vous prêchez avec puissance. Ça ne l'intéresse pas. Il continue à manger son steak. Mais posez-lui une question sur Dieu. Demandez-lui de vous apporter la parole de Dieu. Puis, juste pour le fun, là, même si vous ne comprenez pas l'anglais, faites John Piper vidéo cette semaine. Allez regarder ce gars-là prêcher. Des fois, il faut qu'il calme, tu sais. Il faut qu'il l'attache pour le calmer un peu, là. Le psalmiste allait vers la parole de Dieu, il allait plonger ses regards pour trouver l'assurance dans son cœur, pour pouvoir répondre et instruire le moqueur comme les grands de ce monde. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Personnellement, c'est vrai dans ma vie. Je suis un homme timide. Mais si vous me donnez l'opportunité, par exemple, d'ouvrir la parole avec vous et de commencer à répondre, vous aurez beau être un athée, un agnostique, n'importe quoi, un musulman, n'importe qui. « Oh, là, j'ai de l'assurance qui s'en vient dans le cœur. Je veux ouvrir les Écritures. » Mes amis, vous pouvez chercher à être libéré sur votre parole et à marcher à tous les jours dans la liberté appuyée sur votre parole. Mon expérience, ça vaut ce que ça vaut. Personnellement, j'aime mieux, et de loin, pouvoir dire que c'est sur la base de la parole de Dieu que j'ai été libéré. Parce que la parole de Dieu me dit que je suis un pécheur, que j'ai été gracié en Jésus-Christ et que je peux puiser en elle, avec l'aide de son esprit, tout ce que j'ai besoin pour marcher dans la vraie liberté. Je suis libéré sur parole, sur la parole de Dieu, pas sur la mienne. On va prier ensemble. Père, ta loi est parfaite. Ta parole est magnifique, Seigneur. On y trouve la vie. On y trouve premièrement la vie en Jésus-Christ. On y découvre Christ. On y découvre le salut en Jésus-Christ. On y trouve un repos pour nos âmes parce que ta parole nous montre notre cœur, nous dévoile combien nous sommes pécheurs et imparfaits, mais elle nous fait connaître ta grâce, Seigneur. Elle nous instruit pour que nous sachions combien nous n'avons pas à marcher accablés par nos péchés. Ta parole nous donne la vie parce qu'elle nous apprend à marcher dans la voie de la liberté. Elle vient corriger, instruire, enseigner notre cœur. Ta parole est belle parce qu'elle remplit ma bouche de paroles de vérité pour bénir et non maudire, pour édifier au lieu de détruire les gens autour de moi, pour encourager au lieu de décourager, pour fortifier au lieu d'abattre les gens autour de moi. Ta parole est belle, Seigneur, parce qu'elle me donne de l'assurance, pour répondre à ceux qui m'outragent, qui se moquent de ma foi, et pour annoncer, Seigneur, ta bonne parole devant les grands de ce monde, avec assurance, parce que ce n'est pas ma parole que j'annonce, mais celle de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.